Avez-vous une montre? Qui n'a pas de montre? Ok. Vous n'avez pas de montre. Mais imaginez un instant que la montre, au lieu de vous donner le temps à venir, vous donnez le temps qui reste. Je ne suis pas sûr qu'on ne mettrait pas la montre, parce qu'en tous les cas, elle ne ferait pas reculer l'heure de notre départ, mais elle nous permettrait probablement d'analyser est-ce que j'ai fait les bons choix, puisque le temps approche. Aujourd'hui, nous avons des montres qui nous donnent le temps et ils nous donnent cette illusion que tout le temps nous appartient. Et dans notre manière de vivre, dans notre manière de réfléchir, on planifie plein de choses. Pour ceux qui viennent de commencer la vie active, ils planifient la retraite. Non, c'est pas ça. Pour ceux qui sont aux études, ils planifient le jour où finalement ils vont en récolter le fruit. Il y a plein de choses qu'on essaie de planifier, de regarder comme si en réalité le temps nous appartenait. Pourtant, il nous coule entre les doigts comme du sable. Prenez de l'eau dans les mains, vous pouvez en garder une certaine partie, mais le reste a la tendance à partir. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'avec nos mains, on ne peut pas retenir. Le temps, on ne peut pas le retenir. Le temps, on ne peut pas le contrôler, même en ayant la meilleure des montres. Jésus apportera un message aux hommes pour leur faire comprendre que le temps n'est pas quelque chose qui leur appartient. Et que tant que nous avons le temps, il faut bien s'en servir. Alors j'aimerais partager cette pensée avec vous. Il est l'heure. On va faire différentes lectures et la première est en Jean chapitre 16, les versets 23 à 33. Jean chapitre 16, versets 23 à 33. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu nous dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici que l'heure vient, et même, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Quel texte incroyable. La première chose, il est question pour nous de connaître le Père. Il est l'heure de connaître le Père. Vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez. Et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Et là, Jésus va dire quelque chose quand même d'incroyable. Parce qu'il va dire, l'heure vient. L'heure vient. Il est temps. Il est question d'une certaine urgence. Jésus parle de quelque chose à ses disciples en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient plus de temps à perdre. Aujourd'hui, dans le monde, on dit que le temps, c'est l'argent, non ? Faut pas perdre de temps parce qu'on perd de l'argent. Mais je dirais qu'on pourrait perdre bien plus que l'argent. En voulant courir derrière le temps, on peut perdre notre âme. On peut perdre les véritables choses qui ont de la valeur. Et Jésus dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Il est question pour nous d'apprendre à connaître le Père. Vous verrez, il y a quelque chose quand même de particulier dans cette pensée de Jésus et combien est important pour nous de connaître le Père et de l'adorer. Il y a une discussion que Jésus aura avec une femme à côté d'un puits, une Samaritaine, qui finalement il se trouve devant celui qui connaît toutes choses. Ce Jésus qui vient lui parler de son parcours de vie, qui lui dira « va chercher ton mari », qui lui dira des vérités et qui finalement, il lui permettra d'enlever le masque derrière lequel elle s'était cachée. Cette femme qui choisissait le temps où personne était auprès du puits pour ne pas rendre des comptes, pour ne pas croiser le regard des autres. J'imagine qu'elle devait passer sa journée à regarder l'heure pour ne pas rater le moment où elle pouvait finalement passer sous les radars. Et si elle n'avait plus d'eau le matin, le temps devait être long. Et cette femme va vers le puits et là, finalement, il y a quelqu'un parce que c'est l'heure de rencontrer Jésus. Et Jésus lui dira, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Cette femme, elle avait besoin d'entendre une vérité. Elle avait besoin d'entendre quelque chose qui allait finalement lui permettre de changer de vie. Est-ce que nous sommes prêts à changer de vie? On n'est pas trop à l'aise avec les changements. On n'aime pas trop quelque chose qui nous bouscule, quelque chose qui finalement il nous sort de nos habitudes. On a tous des habitudes. On est installé dans les habitudes. Simple fait de devoir changer l'heure du réveil le matin. Pour certains, même 10 minutes, c'est une catastrophe. Donnez-leur 10 minutes de sommeil en plus, ça va. Mais au moins, ah, c'est compliqué. Et là, Jésus vient dire à cette femme, l'heure vient. Cette femme qui dit, mais où est-ce qu'il faut finalement aller adorer? Vous vous dites à Jérusalem, nous on dit sur la montagne. Jésus lui dit, mais ça c'est un faux débat. L'heure vient et c'est maintenant. Arrête de perdre du temps. Arrête de t'égarer par des discours et des philosophies. L'heure vient et c'est maintenant que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Et il est question de connaître le Père. Il dira, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est particulier dire ça à quelqu'un qui peut-être passe du temps dans la prière, elle est consciente de sa vie. Hein. La Samaritaine, elle est consciente de sa vie. Elle n'est pas fière de sa vie parce qu'elle se cache du regard des autres. Quand on est fier, on sort à l'heure de pointe. Hein. Mais quand on n'est pas fier, on cherche l'heure où finalement, on ne nous voit pas. On n'a pas... avoir le regard des uns, des autres, peut-être les petites phrases qui nous rappellent, qui nous font souffrir. Et là, cette femme, elle se trouve devant quelqu'un avec qui elle n'a pas besoin de faire semblant. Elle n'a plus besoin de se cacher. Il connaît la vérité. Et Jésus lui dit qu'il est question pour elle finalement d'apprendre à adorer le Père en esprit et en vérité. Non pas comme toi tu veux, ce n'est pas là où toi tu veux, c'est là où le Père veut. C'est comment le Père le veut. On pourrait adorer Dieu de mille manières et croire que parce que nous, ça nous fait du bien, que Dieu est forcément d'accord. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu attend la louange. Il nous a donné, lui, la manière où il veut être adoré. Comment ? En esprit et en vérité. Tout le reste ne dépasse pas le plafond de la salle. J'irais qu'on pourrait passer des heures et des jours et ne rien voir parce que finalement, cette adoration n'est pas celle que Dieu attend. Et il est important pour nous de connaître le Père pour ne pas tomber. En Jean chapitre 16, versets 1 à 4, il dira ceci. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient. Où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. » Quelle drôle de manière d'offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. L'heure vient. Ce n'est pas un programme super relaxant. Jésus leur dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Aujourd'hui, il y a une telle confusion et chacun en va du sien pour finalement essayer de dire que c'est comme ça que Dieu doit être adoré ou de notre manière et voire même dénoncer les uns les autres. Terrible. Et Jésus nous avertit, nous dit, je vous en parle afin que vous sachiez au moment où ça va arriver, que je vous en avais déjà parlé. Mais pour nous, ce qui reste important, c'est de connaître le Père pour ne pas finalement nous laisser vaincre par quelconque forme de sentiment d'insécurité. Il est question pour nous de vivre notre foi en Dieu en tout temps, en toutes circonstances, et je dirais pour l'éternité. Amen. Alors, Jésus nous dit, apprenez à connaître le Père. Il est question aussi de parler au Père. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Au verset 26, il dira, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Pourquoi Jésus ne veut pas prier le Père pour nous ? Bien, des fois, il dit, je prie pour vous, je suis auprès du Père et j'intercède pour vous. Et là, Jésus nous dit quelque chose et je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Pourquoi ? Parce que finalement, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru. Finalement, la relation qui devrait être celle que nous devrions avoir avec Dieu, on y est arrivé. On a appris à connaître le Père. Alors, on a toujours besoin de Jésus. On a toujours besoin de Jésus. Mais à quelque part, On a été plus loin. On a été plus près du Seigneur. Et finalement, on a compris l'amour du Père. Qui pourrait dire ce soir, j'ai compris tout l'amour du Père pour moi ? Qui pourrait ce soir dire, moi je connais tout l'amour que Dieu a pour moi ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que Dieu ne veut pas nous le révéler ? Qu'est-ce qui nous empêche, finalement, de connaître l'amour du Père pleinement ? On n'a pas le temps. On est très occupé. Ou est-ce que, finalement, nous n'avons pas pris le problème par le bon côté ? Jésus dira de nous approcher du Père parce qu'il nous aime, parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru. Plus finalement nous comprendrons et que nous aimerons Jésus pour celui qu'il est et pour celui qui a fait, mais avant tout pour celui qui est. Parce qu'il dira, je suis sorti du pré de Dieu. Comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Si je ne passe pas par Jésus, je ne pourrai jamais connaître le Père. D'ailleurs, je vous rappelle que dans sa prière sacerdotale, Jésus dira, « Père, je t'ai fait connaître aux hommes. » Comment connaître le Père si ce n'est pas passé par Jésus ? Vous avez déjà eu certainement l'occasion de voir un enfant et peut-être un jour d'avoir rencontré son père. Et là, vous avez sorti cette phrase. Il est copie conforme ou le portrait ? Oh là ! Mais finalement, il a fallu commencer par connaître l'enfant. Et quand on voit le père, on dit, oh là, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est clair. Là, c'est père et fils. Pourquoi ? Parce qu'il y a la même nature. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la même nature. Animé des mêmes sentiments. Quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas trouver en qui que ce soit, si ce n'est dans la personne de Dieu. Et rencontrer Jésus, mais puisque le Père et le Fils sont un, alléluia, quelle rencontre merveilleuse. Alors, plus j'apprends à aimer Jésus, forcément cet amour va m'amener à aimer le Père et finalement à me rendre compte combien le Père m'a aimé au point de donner son Fils pour moi. Et c'est un cercle vertueux. Parce que ça entraîne notre cœur à vouloir encore en savoir plus. Jésus dira, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est comme s'il y a une étape qui s'est passée. Cette proximité avec Dieu fait que finalement nos prières, frères et sœurs, seront forcément selon la volonté du Père. On ne demandera pas à Dieu des choses qui n'ont pas de sens. Parfois dans nos prières, on demande des choses et Jésus nous dira, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos désirs, vos passions, vos attentes matérielles, personnelles, charnelles, tout ce que vous voulez. Mais finalement, la véritable compréhension de la parole de Dieu, c'est celle de nous dire, l'heure vient. C'est l'heure de connaître le Père. Il est important pour nous de connaître le Père. Jean chapitre 5, versets 24 et 25 dira que c'est l'heure d'écouter la voix du Fils de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Waouh ! Il est question pour nous de, finalement, de saisir que ce n'est pas demain. Nous, on a tendance souvent à dire demain. Plus on est jeune, plus on a tendance à dire demain. Demandez à un jeune de faire quelque chose, il vous dira oui, demain. Pourquoi c'est urgent ? On ne peut pas le faire. Vous l'avez déjà dit, vous, demain ? Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain ? Et parfois, certains disent pourquoi faire soi-même ce qu'on peut faire aux autres ? Et d'autres diront, mais si je ne l'ai pas fait hier, ça n'a pas changé quelque chose aujourd'hui ? Je ne le ferai pas, même pas aujourd'hui. Comme ça, peut-être on le fera demain. Drôle d'idée. L'heure vient, c'est maintenant. Ça renforce l'idée du timing. L'importance. Quelle heure vient ? C'est l'heure du choix. Jésus dira à ses disciples qui finalement diront une phrase, « Seigneur, maintenant que tu parles plus par parabole, maintenant, on sait que tu sais tout. » Moi, je me dis que quand on voit la manière où Jésus explique les choses par parabole, le but, c'était de les rendre compréhensibles par tout le monde. Et malgré cela, il ne le comprenait pas. Alors, qu'est-ce que c'est quand Jésus parle clairement ? Ils sont sûrs d'avoir compris et Jésus leur dit, « C'est maintenant que vous avez cru. Ça fait 3 ans que vous me suivez, seulement maintenant vous avez cru. » Et pourtant, ils diront, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom. Ils ont fait plein de choses, ils ont vu plein de choses, ils ont pu eux-mêmes être des outils de la part de Dieu pour faire et voir des choses. Et là, Jésus leur annonce sa mort, leur vient, où le Fils de l'homme donnera sa vie. Jésus, t'es grave. Peut-être que si c'était au temps d'aujourd'hui, les disciples auraient parlé comme ça. Jésus, t'es grave quand même. Ben, on a le temps, non? Et si le temps ne t'appartenait pas? Et si finalement tu pouvais te rendre compte le temps qui te reste à vivre? Est-ce que ta manière d'agir, de fonctionner, de réfléchir, de décider, est-ce qu'elle ne serait pas complètement différente? Est-ce qu'à un certain moment, tu ne serais pas en train de te dire « qu'est-ce que je peux faire de bien pour que finalement, le temps qui me reste, je sois en paix, j'ai tout fait. Je sais que je ne laisse pas les choses en désordre. Je sais que je ne laisse pas des problèmes que les autres devront gérer à ma place. Je sais que je ne reste pas avec un sentiment d'incompréhension avec qui que ce soit. Si on savait quelle était l'heure, le jour de notre mort, je pense qu'on ferait beaucoup de choses autrement. Même si quelqu'un nous a fait du mal, on essaierait d'aller régler le problème. Non ? Et peut-être certaines histoires qu'ont pu toucher notre famille ou notre couple, on les verrait différemment, on irait voir l'autre personne, lui dirait « Écoute, c'est vrai, on s'est fait du mal, je te demande pardon pour ma part, écoute, il faut qu'on passe outre. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Il ne me reste plus le temps pour. Je ne veux plus rester avec un temps pour être en guerre. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie en guerre, en se disant un jour j'aurai la paix. Ils n'ont jamais connu la paix parce qu'ils n'ont pas choisi la paix. Et Jésus leur dit qu'il est question que l'heure vient, elle est même venue. Il dira, vous allez être dispersés, vous me laisserez seul. Combien de temps s'est passé entre ce que Jésus est en train de dire à ses disciples et le moment de l'accomplissement? À peine quelques jours. Où Jésus va se retrouver tout seul, accusé injustement, amené devant un tribunal qui n'en était pas un. Où il va prendre des coups, où il va être maltraité, où il va être jugé, amené dans un lieu horrible, terrible, où ses mains, ses pieds vont être percés. Quand Jésus leur disait ça, ils savaient de quoi il parlait. Lui, il avait la montre qui lui indiquait le temps qui lui restait. Il n'a pas perdu le temps, il n'a pas dit aux disciples, « Allez, ce soir, soirée libre. Hein ? Vous avez tellement bien travaillé cette semaine, liberté. Demain, c'est samedi. Non, on ne va pas à la synagogue pour une fois, ce n'est pas grave. » Hein ? Jésus leur dit, venez veiller avec moi, au moins une heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples ? Et si nous, on s'était endormis ? Et si nous, maintenant que Jésus nous dit, veillez, priez, parce que l'heure vient, si nous, on s'était endormis, frères et sœurs ? Si nous, finalement, on n'a pas pris compte de ce que Jésus est en train de nous dire ? Si nous, on était passé à côté de ce que le Seigneur voulait nous dire. Alors certes, on pourrait se dire, mais la vie est tellement difficile. C'est tellement compliqué, tous les jours on est fatigué, on n'en peut plus. Il faut avoir une soupape de sécurité. Aujourd'hui, quelqu'un me parlait de ce système un peu comme une cocotte minute, vous savez. Où quand la personne elle a des problèmes, apparemment, elle soufflote un peu comme la cocotte minute. C'est une méthode, hein? On a tous notre méthode pour enlever la pression. Quelle est la vôtre ? Certains chantent, d'autres bricolent, d'autres restent muets. Mais la pression pour autant est là. Parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème à l'origine, il y aura toujours un problème. Alors, imaginons un instant qu'il nous restait 5 minutes à vivre. Quelqu'un dirait, c'est trop court, pasteur. 5 minutes suffisent. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Une fois ton cœur est en paix, le Seigneur peut dire, allez, puisque tu as mis ta vie en paix, je te laisse encore quelques années. Ah, merci Seigneur. En réalité, on devrait vivre tous les jours de notre vie comme un cadeau de Dieu. C'est juste ou pas ? On ne contrôle rien. Hein. Tous les jours, on devrait vivre avec ce désir de dire, Seigneur, est-ce que je suis en ordre ? Est-ce que ma vie est en paix avec Dieu? Et si ce n'était pas le cas, est-ce que ce ne serait pas peut-être ce soir le temps de dire, Seigneur, l'heure c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, je veux changer mon avenir. L'heure de définir notre éternité. Jean chapitre 5, versets 28 et 29, il dira, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Quelle différence de destination. Et le choix, c'est maintenant. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes et le jour d'après, d'apprendre que ils se sont endormis. Alors quelqu'un dirait, c'est la plus belle des morts. Non ? Dans le sommeil. Mais je dirais, tant que tu es en ordre et que tu es sûr qu'au moment où tu sortiras pour la résurrection, c'est la vie qui t'attend. Alléluia. Qu'on s'en aille en paix avec un grand sourire. Mais si notre vie n'est pas en ordre. Il y a des années de cela, il y avait un frère que j'appelais Papy Yo-Yo. C'était sur Besançon. Ce papy était souvent très malade et les médecins ils nous appelaient en disant « Il est en train de mourir, il est en train de mourir, il est en train de mourir. » On arrivait, on priait pour lui, hop, il repartait vers le haut. Et les médecins, ils disaient « On ne comprend pas. » Ça m'a travaillé. Et j'ai pris le temps de discuter avec lui. Alors, ce n'était pas chose simple parce qu'il n'était pas trop bavard. Mais je voulais m'assurer que son cœur était en ordre avec Dieu. Et Dieu merci, par l'échange qu'on a pu avoir, mais j'ai senti son cœur était en paix, était prêt à rencontrer le Seigneur. Je dirais même, c'était son désir. Mais dans sa famille, sa fille n'était pas prête. Et un jour, en discutant avec sa fille, elle me dit, tu sais Emmanuel, si Dieu prenait maintenant mon papa, je serais malheureuse parce que il y a des choses que j'ai besoin de lui dire, mais je n'y arrive pas. Et je lui dis, tu sais, il faut que tu pries maintenant que Dieu t'aide à pouvoir lui parler, parce que j'ai le sentiment, ton papa attend que tu puisses libérer ton cœur pour que finalement lui puisse être libéré de ce corps de souffrance. Et finalement, elle me dit, écoute, je vais le faire. Et quand elle a pu finalement parler avec son papa, son cœur était libéré. Et je suis allé voir le papa et je lui dis, comment ça va? Il n'arrivait plus à parler. Et il me fait un signe avec la tête. Il regardait vers un endroit et il était souriant, rayonnant. Je lui dis, est-ce que les anges sont là pour te prendre? Oui. Et dans la nuit, il est parti dans la paix, avec un sourire incroyable. Le matin, quand on m'a appelé, je suis arrivé dans la chambre, il y avait les infirmières qui s'étaient occupées de lui depuis des années, parce qu'il avait passé des années à l'hôpital. Et les infirmières, elles me disaient, on n'a jamais vu une chose pareille. Quelqu'un avec les douleurs, avec la maladie que lui, il avait, partir comme ça dans la paix, il dit, il aurait dû hurler. Mais là, il est souriant, il a le visage d'un enfant. Quelle grande différence entre mourir en Christ et mourir sans Christ, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous encourager à quelque chose. Dans le livre d'Habacuc, il est écrit ceci au chapitre 2, verset 3. C'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Celui qui tient le temps entre ses mains, c'est ni vous, ni moi, c'est Dieu. Et quand ça sera le moment, ce moment ne sera pas différé. On peut terminer par une prière. Ce texte, je l'ai partagé dimanche, ce verset, et il continue à travailler mon cœur. Donc je me dis, Seigneur, il y a certainement encore quelque chose que cette parole doit accomplir dans notre vie. C'est écrit dans le psaume 40, verset 18. Ça peut être notre prière ce soir, tout simplement. Et la prière du psalmiste, c'est moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Reconnaître notre état et finalement remettre notre vie entre les mains du Seigneur, c'est le meilleur choix que nous pouvons faire. Et après, vous savez, le reste que Dieu nous donne de temps à vivre, on sera soulagé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on sait où on va. J'ai fait l'expérience de rencontrer, vous pouvez le faire vous-même, des personnes qui ont la foi en Dieu. Quelqu'un qui a mis sa vie en ordre, qui est tranquille, et vous lui dites, écoute mon frère, si le Seigneur devait venir ce soir, alléluia, Seigneur, reviens. Après, s'il nous laisse encore un peu de temps, on n'est pas contre, hein, mais on est prêt. Mais demandez à quelqu'un dont le cœur encore n'est pas en paix, où il y a encore plein de choses qui n'ont pas pu être réglées. Et vous lui dites, si tu devais... Ouf, alors la peur le gagne. J'ai connu quelqu'un qui ne voulait même pas dormir par peur de ne pas se réveiller. La peur, la crainte. Est-ce que c'est une manière de vivre ? Certainement pas. Parce que tant que les choses elles ne sont pas réglées, vous pouvez fermer les yeux. Le réouvrir demain matin, les problèmes y seront là. Mais une fois que c'est réglé, une fois qu'on sait que finalement notre cœur, notre vie appartient au Seigneur, je ne suis plus malheureux. Tu peux remettre le texte, s'il te plaît, Tina ? Si avant j'étais malheureux, maintenant je suis heureux. Si avant j'étais pauvre, maintenant je suis... Amen. Parce que le Seigneur, pas seulement a pensé à moi, mais prend soin de moi. Et je dis, le Seigneur est mon secours. Mon Dieu, je t'attends. On incline nos têtes, nous fermons nos yeux. Seigneur, quand ta parole nous avertit des temps à venir, quand ta parole nous partage ouvertement, Seigneur, ce qui va se produire dans les derniers temps, le but, ce n'est pas juste de nous donner des informations par anticipation. Ce n'est pas de gagner, Seigneur, en notoriété, non. C'est pour que finalement nous sachions saisir le temps qui nous reste pour faire les bons choix, pour prendre la bonne direction. Seigneur, garde-nous de nous éparpiller, garde-nous de nous écarter, de nous égarer, pour suivre nos manières à nous, nos visions à nous, de te louer, de t'adorer, alors que ce n'est pas ça que toi tu attends de nous. Garde-nous de devenir la proie, Seigneur, de ceux qui voudraient se servir de nous comme un marchepied en pensant pouvoir gagner la gloire, alors que la véritable gloire, c'est de t'avoir dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, je te prie encore pour ceux et celles qui, ce soir, ont besoin de saisir ce temps, maintenant, de dire, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Seigneur, je choisis de faire de toi mon Sauveur, mon Seigneur. Je désire connaître le Père. Je désire aimer, adorer, glorifier le Père. Je désire, Seigneur, être prêt pour ton retour. Seigneur, mon avenir, il est en toi. Seigneur, que ta main soit encore tous ceux et celles qui, cet après-midi, ce soir, Seigneur, disposent leur cœur entre tes mains. Disposent leur vie, Seigneur, à tes pieds.